France Inter, Nicolas Demorand, le 7-9.
Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin dans le grand entretien du 7-9 la directrice générale de l'entreprise Engie, entreprise du CAC 40. Vos questions au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et via l'application France Inter. Isabelle Cochère, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être ici en studio ce matin. On voulait vous entendre dans le contexte actuel tendu, alors qu'il est demandé aux grandes entreprises de répondre à ce que le président de la République a appelé l'état d'urgence économique et sociale. Vous avez, avec 12 autres patrons de grandes entreprises, signé une tribune dans Le Monde cette semaine. Vous vous y engagez tous pour une économie inclusive. On va y venir sur le fond, mais dites-nous déjà pourquoi une telle prise de position collective, c'est rare. Pourquoi avoir pris cette initiative ?
Je crois que la France traverse une crise profonde. Alors c'est un malaise qui n'est pas complètement d'hier, qui a augmenté, puis qui a éclaté de manière spectaculaire. Et tout le monde doit prendre ses responsabilités, et pas seulement les pouvoirs publics. Donc effectivement, avec un certain nombre d'autres entreprises, nous avons pris des engagements qui sont très importants. Pour Engie, par exemple, nous allons passer à 10% d'apprentis. 10% d'apprentis pour un groupe qui a 150 000 personnes. Vous voyez bien que ce n'est pas rien. Alors, nous allons commencer par la France. Nous sommes organisés pour cela. Nos équipes y travaillent d'arrache-pied depuis des mois maintenant. Nous allons passer de 5% d'apprentis aujourd'hui à 10% d'apprentis dans 3 ans. Voilà, concrètement, quelque chose qui, à mon avis, a un impact positif.
Ouais. Mais on va y venir sur le fond après.
Pourquoi si tard, j'ai envie de vous dire? Il fallait cet électrochoc-là de la crise des Gilets jaunes pour que vous agissiez, que les grands patrons réagissent?
Alors, je pense qu'il y a une forme de réveil, oui. Ça ne veut pas dire que rien n'était fait. Hein. Beaucoup d'entreprises agissent, mais vous le savez bien, tous les jours de manière extrêmement, je dirais, courageuse. Et chacun des signataires de cette tribune n'a pas découvert ce que c'est que l'engagement social. Et chacun des groupes dont vous avez parlé est très engagé, en fait. Et nous aussi, l'apprentissage dont je viens de vous parler, nous sommes déjà passés de 3% à 5% ces 2 dernières années, et on va passer de 5 à 10. Donc, c'est plutôt une question de rythme, en fait. C'est plutôt une question d'accélération.
Mais on est tous en train de s'interroger, les médias, les pouvoirs publics, les médias aussi réfléchissent à ce qu'on a raté, à ce qu'on a mal fait, les chefs d'entreprise maintenant. Mais c'est vrai, sur les chefs d'entreprise, on s'interroge sur ce réveil. Pourquoi, à votre avis, vraiment, j'essaie de vous pousser à la réflexion, sans procès, mais
oui,
pourquoi,
sans accusation,
pourquoi avoir mis autant de temps à poser la question des salaires, des primes de Noël, par exemple, vous allez nous annoncer la prime que vous allez donner à vos salariés, la fameuse prime de Noël défiscalisée. Pourquoi a-t-il fallu en arriver là pour votre réveil?
Encore une fois, je pense que nous sommes tous en train d'accélérer. Ce serait faux de dire qu'il n'y a rien eu de fait, c'est simplement pas la réalité.
Mais là, c'est l'état d'urgence, pour reprendre les termes du président.
Je crois qu'on a tous été extrêmement surpris par la violence de cette explosion. Donc, eh bien, il faut une réponse qui soit à la hauteur de ça, hein, tout simplement.
Quand on lit ce texte, vous avez donné un certain nombre de chiffres pour les apprentis, mais on se dit que son inspiration est beaucoup plus philanthropique qu'économique et sociale. Pourquoi, en plus de ces actions qui sont utiles, qui sont efficaces, là je pense particulièrement aux apprentis, pourquoi vous ne prenez pas le problème à l'endroit, à savoir se mettre tous autour d'une table et augmenter les salaires? C'est ce que vous demande aussi Emmanuel Macron.
Oh, d'ailleurs, c'est ce que nous faisons tous. Hein. Mais vous savez, il y a l'aspect nos collaborateurs, mais il y a aussi les Français. Alors, nous, il se trouve que entreprise spécialisée dans l'énergie, nous nous sentons très directement concernés. L'énergie, c'est pas un produit de consommation comme les autres. On n'a pas le choix de consommer l'énergie. Tout le monde consomme de l'énergie. Et dans le budget des ménages, ça n'est pas négligeable. C'est pour un foyer de 4 personnes, c'est entre 1600 et 1800 euros par an. Bon, et finalement, il faut écouter les gens. Les gens, ils nous disent quoi? Ils nous disent, écoutez, on nous bassine avec le réchauffement climatique, avec ce que certains ont appelé la fin du monde ou la fin de la planète, mais nous, on a des problèmes de fin de mois. Des gens qui ont des problèmes de fin de mois, par définition, ils sont légitimes. Donc, il n'y aura pas de transition énergétique si elle n'est pas immédiatement l'occasion d'un progrès, d'un mieux, et donc, en particulier de plus de pouvoir d'achat pour les gens. Alors nous, il se trouve que chez Engie, c'est notre intuition depuis 3 ans. Ça fait 3 ans qu'on s'organise sur cette intuition-là. Et Engie aujourd'hui, si je simplifie, c'est quoi? C'est 2/3 de personnes, c'est-à-dire 100 000 donc, hein, sur les 150 000, dont le métier, ce sont les économies d'énergie. À la maison, dans les entreprises, partout. Et puis 1/3 de collaborateurs qui remplacent l'énergie carbonée par de l'énergie non carbonée. Voilà, en super simple, ce qu'est Engie aujourd'hui. Et l'idée, elle est simple, elle est de réconcilier la transition énergétique, on n'a pas le choix. C'est vu comme un sujet de très lointain aujourd'hui, mais ce sera le sujet de fin de mois de nos enfants et de nos petits-enfants. Et puis en même temps, plus de pouvoir d'achat parce qu'on n'a pas le choix non plus.
Alors concernant la prime de Noël, combien ce sera pour vous, pour les salariés d'Engie?
Alors donc là, on revient aux collaborateurs d'Engie, puis je pense qu'après on reviendra aux Français. Les collaborateurs d'Engie donc, toucheront en janvier, mi-janvier, on a souhaité faire vite, 600 euros, tous ceux qui ont un salaire qui est inférieur à 2500 euros brut par mois.
Vous avez été rassuré qu'Emmanuel Macron choisisse d'augmenter la prime d'activité et non pas le SMIC?
Je pense que c'est un peu trop tôt encore hein, pour voir tout l'impact concret de toutes ces mesures, mais je pense qu'il y a un effort, un vrai effort, d'aller effectivement toucher les bons curseurs aux bons endroits pour qu'il y ait un impact pour les gens.
Expliquez-nous pourquoi augmenter le SMIC est une erreur à vos yeux.
Alors je vais vous parler pour Engie, nous n'avons pas de salariés au SMIC. Nos plus bas salaires sont à SMIC plus 15%.
Oui, mais vous ne me répondez pas à la question macroéconomique, parce que Muriel Pénicaud expliquait que augmenter le SMIC, c'était une mauvaise idée, parce que ça détruirait des emplois. Pourquoi? Vous pouvez nous expliquer cette...
Et parce qu'il y a un vrai sujet d'accès à l'emploi dans notre pays. Je vais prendre un exemple simple. Engie, 2000 postes non pourvus en permanence. Dans un pays qui a 10% de taux de chômage, vous vous rendez compte? Donc effectivement, je pense qu'il faut faire en sorte que les passerelles entre les demandeurs d'emploi et les propositions d'emploi soient les plus fluides possibles. Donc je ne suis pas sûre qu'il faille remonter les barrières. Il faut plutôt essayer, quel que soit le salaire, d'aller augmenter concrètement, net à la fin du mois, l'impact positif dans le portefeuille des gens.
Est-ce que la situation actuelle de la France vous inquiète? On peut lire cette tribune aussi comme le signe d'une inquiétude extraordinairement profonde d'un certain nombre de grands patrons.
Ah, c'est une vraie crise, hein. C'est une vraie crise dont les impacts sont pas encore bien mesurés. Il y a l'impact des mesures publiques, il y a l'impact pour tous ceux qui n'ont pas pu aller travailler. Il y a l'impact sur la confiance hein, avec laquelle les gens regardent l'avenir. Il y a l'impact sur l'image internationale. Oui, c'est une vraie crise.
Et l'impact sur la croissance, puisque la croissance a encore été revue à la baisse. Est-ce que vous êtes inquiète de cela?
Alors, c'est paradoxal. Il y a des indices très positifs. Regardez le bâtiment. Puis effectivement, il y a ce malaise profond qui évidemment fait peser un risque sur notre dynamique. Moi, je crois qu'il faut se mettre à des choses concrètes. Je vais vous parler, si vous en êtes d'accord, je vous parle une seconde d'énergie. Parce qu'encore une fois, l'énergie, c'est un sujet concret pour les gens. On est en plein hiver, il faut se chauffer. Et ça n'a pas, enfin, c'est un impact non négligeable sur le budget des ménages. Alors, par exemple, puisque je vous ai dit que notre créneau, c'est transition énergétique, mais pouvoir d'achat en plus tout de suite, nous avons décidé de prendre à bras-le-corps un sujet dont on ne parle pas beaucoup, qui sont les vieilles chaudières. Les vieilles chaudières. Les vieilles chaudières, c'est un peu comme les voitures d'il y a 15 ans qui consommaient 10 litres au 100. Ça ne veut pas dire qu'elles allaient plus vite hein, ou qu'on y était mieux. Ça veut dire simplement qu'elles étaient moins bien réglées que les voitures d'aujourd'hui. Les chaudières, c'est pareil.
Alors, vous allez faire quoi avec les vieilles chaudières?
Alors, il en reste 3 millions. Donc, il y a 3 millions de foyers, donc 12 millions de Français, qui ont une vieille chaudière qui consomme plus d'énergie que les autres. Et le problème, c'est que ceux qui, justement, n'ont pas encore changé leur chaudière, les 3 millions dont je vous parle, ne l'ont pas changé parce qu'ils ne peuvent pas faire le chèque de départ. Une chaudière, c'est trop cher.
Et une chaudière, c'est très cher. Parce qu'une chaudière, c'est autour de 1 000 euros, il me semble.
C'est 3 500 euros une chaudière, en moyenne. C'est très cher, une chaudière. Donc, il y a des tas de gens qui ne peuvent pas faire le chèque de départ. Donc, nous avons pris une décision, voilà, c'est concret. C'est-à-dire, on va éviter aux gens de faire le chèque de départ. Ils vont payer leur chaudière un petit peu chaque mois. Mais comme ils vont faire des économies d'à peu près 30%, vous vous rendez compte, dès le premier mois, en fait, ils vont gagner tout de suite. S'ils changent leur chaudière en janvier prochain, ils gagneront dès le mois de février du pouvoir d'achat. on a fait l'estimation qu'ils gagneraient en moyenne à peu près 250
mais à la
euros
fin
de
pouvoir
fin, d'achat.
À la fin des fins, ils vont la payer à 3500 euros la chaudière. Écoute, petit à petit, mais ils vont la payer.
Ils vont la payer, mais ils vont gagner plus en faisant des économies d'énergie que ce qu'ils vont avoir à débourser pour payer la chaudière.
On va passer, il est 8h33, au standard de France Inter, où nous attendent déjà de nombreux auditeurs, beaucoup d'interventions également sur l'application France Inter. Bonjour Jacques.
Bonjour à tous.
Bienvenue.
J'ai écouté donc la présidente d'Engie France, là, et son propos qui a eu lieu il y a quelques secondes, quand elle parlait d'apprentissage et de création d'emplois en France. Ça tombe bien, car j'allais lui demander la question suivante. Mais avant, un petit préambule. Vous savez tous que il y a des panneaux photovoltaïques sur les toits, qui sont des panneaux rigides. Et il se trouve que deux entreprises françaises ont mis en innovation des films minces qui produisent de l'électricité. C'est une innovation française qui n'existe pas ni en Extrême-Orient, ni aux États-Unis. Il se trouve qu'Engie participe par une filiale qui se trouve en Allemagne, qui s'appelle Eliatech, vient de remporter un contrat pour un toit d'un collège en France. Mmh. Ma question est la suivante. Quand Engie, en continuant sur sa proposition de créer des emplois en France, va-t-il produire en France ses films photovoltaïques ?
Merci Jacques pour cette question. Isabelle Cocher vous répond.
Bonjour monsieur, vous avez raison, il y a une nouvelle génération de photovoltaïque qui arrive, qui n'est pas, vous savez, comme les panneaux qu'on connaît en silicium noir et rigide et lourd d'ailleurs, qui sont des films qui sont très légers, qui sont pliables, enroulables, qui sont d'ailleurs de plus en plus transparents, que ça s'appelle l'organique photovoltaïque. Alors, il y a deux entreprises avec lesquelles nous travaillons, une entreprise allemande qui s'appelle Eliatech et une entreprise française qui s'appelle Armor. Il y a des technologies différentes, il faut essayer un peu tout cela, mais oui, vous avez raison, moi je crois qu'il y a... On a un peu perdu tous la première bataille, hein, c'est-à-dire que les panneaux solaires de première génération, leur production est largement partie en Asie, il ne faut pas louper la seconde. Il y a une nouvelle génération de technologies qui arrive et vous pouvez compter sur nous pour pousser au maximum les entreprises françaises.
Léa.
Une question sur les prix du gaz. Il n'y aura pas d'augmentation des tarifs du gaz jusqu'en 2019, jusqu'en juin 2019. C'est l'une des premières mesures mises sur la table par Édouard Philippe. Mais comme le prix du gaz est partiellement indexé sur celui du pétrole, les prix de toute façon n'allaient pas augmenter. Hein, donc c'est pas une grande annonce. Mais après, est-ce que vous vous engagez à ne pas augmenter les prix du gaz en 2020, en 2021, ou est-ce que vous dites bah non, ça suivra
son cours.
Les prix du gaz, ça n'est pas nous qui les fixons. Et vous l'avez dit à l'instant, ce sont les pouvoirs publics. Ils vont baisser au 1er janvier de 2%. Ce que nous faisons avec eux en ce moment, c'est que nous essayons de décomposer tous les paramètres et de travailler sur chacun d'entre eux, changer les régulations quand il faudra les changer, pour que ils ne soient pas amenés à remonter de manière automatique, si je puis dire, dans les mois qui viennent. Donc il y a un travail qui est en cours, mais ça n'est pas nous qui les fixons.
Mmh. Donc Judith, vous ne pouvez pas prendre d'engagement, on ne peut pas s'engager. Peut-être que le prix du gaz va augmenter dans un an, dans deux ans, et peut-être massivement si le prix du pétrole augmente.
Ce que je vous dis, ce à quoi je peux m'engager pour le coup, c'est vraiment essayer de détecter, débusquer presque tous les facteurs d'augmentation. Vous savez, nous le gaz qu'on revend, en fait, on le produit pas, on l'achète. Moi, j'ai pas du tout intérêt à un prix du gaz élevé, aucun. Donc on travaille avec les pouvoirs publics pour essayer de faire baisser les prix d'achat du gaz en question.
Sur le même thème, Judith, sur l'application France Inter, pourquoi le prix du gaz va être gelé et non pas plafonné pour les mois à venir? Le prix du gaz baisse sur les marchés dans les mois à venir. Comment justifiez-vous le bénéfice qu'Engie va engranger dans cette crise des gilets jaunes? C'est la question de Judith.
Alors, je viens de le dire rapidement.
Oui, mais en fait, c'est l'idée d'un plafond. C'est pas simplement d'un gel, mais d'un plafond.
Le gaz, d'où est-ce qu'il vient? Il vient de Russie, il vient de Norvège, il vient d'Algérie. Il n'est pas produit en France. Je crois que la bonne réponse de long terme, c'est de s'organiser pour est toujours plus capable de demander à ces pays-là de baisser leurs prix. Donc là, il y a un aspect diplomatique derrière aussi. Et puis c'est de s'organiser progressivement pour que du gaz local, qui sera du biométhane par exemple, sans doute entendu parler de cela, qui va être produit à la ferme, dans les décennies qui viennent, c'est une technologie qui va se développer, il faut arriver à le produire de manière compétitive.
Beaucoup de questions, je le disais, Gérard est en ligne, soyez le bienvenu sur Inter, Gérard.
Oui, bonjour Madame Kocher. Je travaille chez Engie dans une entité qui s'appelle Axima et j'ai fait le calcul, la prime de 600 euros sur les salaires bruts de 2500 concerneront uniquement 40% des salariés. Quel sera le message pour les 60% des salariés qui ne toucheront pas cette prime?
Merci Gérard pour cette question. Isabelle Kocher vous répond.
Bonjour Gérard. Heureuse d'abord que certains de nos équipiers soient sur les ondes ce matin. Alors oui, vous avez raison, les 600 euros, c'est 41 000 personnes qui vont en bénéficier. Alors bonne nouvelle, ça veut dire que nous en avons tout le reste de nos collaborateurs sont au-dessus des 2500 euros bruts par mois dont j'ai parlé tout à l'heure. Et je crois qu'il faut se féliciter de cela. Puis par ailleurs, ce plafond de 2500 euros, ce seuil de 2500 euros, moi j'ai tout fait pour le fixer haut. Hein, et éviter de le donner simplement aux tranches des collaborateurs qui sont rémunérés au SMIC.
Donc maintenant Arnaud a la parole, Arnaud qui nous appelle de Paris. Bienvenue sur Inter, Arnaud.
Oui, bonjour France Inter, bonjour Madame Kocher, bonjour Nicolas Demorand. Une question à la présidente d'Engie par rapport à une étude récente qui fait apparaître la présence de 327 filiales d'Engie dans des paradis fiscaux. Est-ce que vous confirmez ce nombre et est-ce que, d'après vous, c'est le meilleur moyen de montrer une forme de solidarité nationale? Merci.
Merci à vous, Arnaud, pour cette question. Isabelle Kocher.
Alors là-dessus, moi, j'ai toujours été d'une transparence totale. Nous avons acheté dans le passé des entreprises en Angleterre ou ailleurs qui sont rentrées dans notre groupe avec leur cortège de filiales, dont certaines effectivement dans des paradis fiscaux. Alors pas autant que ce que vous dites, heureusement, mais nous avons un programme, et il est public, de suppression progressive de toutes ces filiales. Et donc j'ai toujours dit, mon objectif, c'est qu'il n'y en ait plus.
Emmanuel Macron a dit il faut que tous les patrons du CAC 40 payent leurs impôts en France. C'est votre cas?
Oui.
Vous payez vos impôts en France?
Oui.
Et est-ce que vous connaissez des patrons du CAC 40 qui ne payent pas leurs impôts en France?
Non.
Donc elle était bizarre cette
phrase. Je pense qu'il faut leur poser la question à eux.
Daniel, il y en a 40 auquel il va falloir la poser.
39
maintenant, oui. Daniel, bonjour.
Oui, bonjour à tous.
Bienvenue. Merci Daniel.
Ma question. En deux mots, j'ai été sollicité par Engie il y a quelques temps pour changer de contrat, passer d'EDF à Engie. Et puis, c'est ce que j'ai fait. Et puis, et j'étais d'ailleurs très étonné que toutes les données EDF aient été transmises aussi rapidement et complètement automatiquement d'EDF à Engie. Enfin bref, quelques temps après, j'ai appris que les services comptables Engie étaient installés au Luxembourg. Alors certainement pour le plaisir, je suppose, minorer la contribution fiscale. Et d'ailleurs, ça m'a été confirmé par EDF. Et aussitôt, évidemment, je suis revenu à EDF.
Voilà.
Alors, qu'en est-il vraiment?
Eh bien, Isabelle Kocher va vous répondre. Est-il vrai donc que vos services comptables sont installés au Luxembourg pour payer moins d'impôts, disait Daniel?
Non, pas du tout, monsieur. Bonjour. Je suis désolée que vous ayez eu cette information. Nos services comptables ne sont pas au Luxembourg. Nous avons des activités industrielles au Luxembourg et en Belgique et aux Pays-Bas, mais ça n'a rien à voir avec les services comptables qui s'occupent de votre contrat. Écoutez, vous serez toujours bienvenue.
Karine, sur à peu près le même thème, via l'application France Inter, quid des emplois de téléconseillers d'Engie à l'étranger, Isabelle Kocher?
Nos centres d'appel, ceux que nous gérons, sont tous en France. Je sais en revanche que certains de nos sous-traitants ont délocalisé quelques centres d'appel. Je pense qu'ils s'adaptent, c'est un métier qui est super, super compétitif. Bon, moi, je vous redis quand même que Engie crée de l'emploi. Ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les chaudières...
Donc, pas de téléconseiller d'Engie, Engie à l'étranger.
Non. Non, et par ailleurs, Engie crée de l'emploi. Nous avons recruté 15 000 personnes l'année dernière. Pardon, j'ai dit l'année dernière, nous y sommes encore, 2018. Et nous recruterons à peu près le même nombre de collaborateurs l'année prochaine. Nous créons de l'emploi.
Une question sur les GAFA. Faute d'accord européen, le gouvernement français va taxer les GAFA au niveau national dès l'an prochain. Est-ce que vous vous félicitez de ça?
Oui, bien sûr, parce que quand on regarde... cette question de la répartition de la richesse entre les géographies du monde, les GAFA ont pris une part absolument considérable à notre vie quotidienne. Hein. Je pense que vous comme moi, on le vit, et les auditeurs qui nous écoutent aussi. Donc c'est juste qu'une partie de cette richesse, la partie qui est générée ici, eh bien, génère évidemment de la ressource fiscale ici. C'est très bien.
On est en ligne avec Mathieu.
Oui, bonjour.
Allez, on vous écoute, bonjour.
Oui, bonjour, c'est pour poser une question. Là, j'entendais parler du passage de 5% à 10% pour l'apprentissage ou la répartition des richesses. Et ce que je me demandais, c'est finalement, est-ce que les politiques ou les entreprises de CAC 40 donnent pas un petit peu d'argent en ce moment, simplement juste parce qu'ils commencent à avoir peur d'une certaine révolution, en quelque sorte.
Merci Mathieu pour cette question. C'est la peur plus que la générosité ou la justice sociale qui guide vos décisions, Isabelle Cochère.
Je ne sais pas comment on peut
le poser. Le standard est ça. Démocratique, non, hein, donc toutes les questions sont posées, méritent réponse.
Mais absolument, et je comprends que vous la posiez. J'hésite sur la façon de vous répondre. Simplement, c'est plutôt, moi je dirais, c'est l'envie d'apporter des solutions concrètes. 10% d'apprentis, je pense qu'on changera la vie de plusieurs milliers de jeunes. Je crois que les entreprises ont un rôle dans ce pays pour montrer qu'il y a de l'espoir, qu'on peut effectivement développer ses compétences, apprendre un métier. Vous savez, nous sommes présents dans 70 pays du monde. L'apprentissage, c'est un levier qui marche très très bien et que nous savons très bien faire fonctionner aussi. Donc non, c'est une réponse, j'espère positive, en tout cas concrète, à quelque chose qui a un vrai besoin.
Sur les 40 dirigeants du CAC 40, vous êtes la seule femme. C'est bizarre.
Oh, ça va évoluer. C'est en train d'évoluer.
Quand ?
Mais vous voyez, progressivement, déjà, il en fallait bien une pour commencer. Et puis j'espère que d'autres de mes collègues suivront. Et à l'étranger, moi, je le vois partout.
Les choses changent. Le fameux plafond de verre est en train de se craqueler.
Oui, les choses évoluent et je pense que les femmes elles-mêmes ne doivent pas se limiter. Une partie du sujet, c'est aussi cela. Ce sont des jeunes femmes moi j'en vois quotidiennement qui viennent me dire mais alors une famille et un travail vraiment prenant, mais comment est-ce que vous faites? Je crois qu'on a la chance de vivre à un moment où ce que à l'époque on appelait les contraintes familiales n'est plus du tout vu comme ça. Et moi, je pense que quand on est une mère de famille, on est plongé dans une réalité de tous les jours. Ça vous garde les pieds sur terre. En tout cas, chez Engie, elles sont bienvenues.
Donc vous dites que c'est aux femmes de faire leur propre révolution et de ne pas se contraindre elles-mêmes.
C'est sûr.
Et de demander tout et de viser tout, la famille, la carrière.
Mais je pense, oui, il ne faut pas que les femmes se limitent. Et puis ensuite, autour d'elles, le monde doit changer aussi. Et il est en train, l'œil s'habitue. J'ai souvent dit, moi, l'œil n'est pas habitué. Je crois que c'est juste ça. On n'a pas l'habitude de voir une femme à la tête d'une organisation. Bon, il faut que ça vienne. Et plus il y en aura, et il faut essayer de passer à un traitement non homéopathique. Hein, c'est un peu homéopathique encore. Et plus ça, voilà,
faut
plus
pas,
les choses
passer aux antibiotiques. Ouais. Faut monter en gamme. Merci beaucoup, Isabelle Cochère. Je rappelle que vous êtes directrice générale de l'entreprise Engie. Merci d'avoir été au micro d'Inter et d'avoir dialogué avec les auditeurs. Il est 8h47.
Merci.